tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Friction, une émission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez sur Divergence FM. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alain.
Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde.
Alors on se retrouve pour parler d'un film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps au cinéma.
Oui, en 2019. Hein, oui.
Un film de James Gray, très grand cinéaste, qu'on connaît par ailleurs pour des films plutôt des polars.
Ouais.
À part qu'il a fait quand même...
Ouais, The Lost City of Z, qui est plutôt un film d'exploration, d'aventure.
Oui, alors on doit dire que c'est vrai que déjà avec The Lost City of Z, James Gray nous avait un petit peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il fasse ce genre de film.
Tout à fait, dans ce genre de registre en tout cas.
Voilà, et il continue à nous surprendre, hein. Je pense qu'il explore donc, les genres.
Alors, d'autres territoires. Ouais.
Voilà, donc peut-être qu'il va nous étonner encore une fois. On se demande qu'est-ce qu'il peut faire après. Hein. Donc en tout cas...
On va parler de Ad Astra du coup.
Voilà, nous on va parler de Ad Astra, un film donc... on peut dire un film de science-fiction.
Oui, hein, tout à fait, ça se passe dans un futur proche. Donc
voilà,
ça.
On peut dire un film d'anticipation.
Oui, aussi.
Voilà, qui en quelque sorte nous projette dans un futur qui est quand même assez inquiétant parce que menaçant. Hein, on se retrouve dans cette idée qu'il y a quelqu'un qui aurait été envoyé il y a longtemps
vers Neptune.
Dans Neptune, et qui aurait en fait une mauvaise influence, pas simplement une influence comme les influenceurs sur YouTube, hein, mais il procéderait donc à des expériences qui auraient des effets très graves sur l'équilibre du système.
Solaire dans son entier, oui.
Ouais.
Oui.
Donc, bon, alors ça, c'est des questions qu'on pourra se poser, de savoir si c'est possible, cette chose-là. Si un homme, lui tout seul, peut provoquer donc...
Avec la science-fiction, tout est possible.
Voilà. Donc, mais voilà, c'est parmi les questions qu'on peut quand même se poser au bout du compte. Si dans un futur proche ou lointain, des hommes pourraient modifier en quelque sorte les équilibres. Hein. Mm-hmm. Est-ce que nous sommes assez puissants? Est-ce que nous pourrions, dans un futur... voilà, modifier l'ordre du monde, l'ordre du cosmos.
Déstabiliser des systèmes entiers.
Voilà, donc ça c'est en quelque sorte la menace qui plane parce qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé il y a longtemps, dont on pense d'ailleurs qu'il est mort.
Oui.
Hein, un certain Clifford McBride.
C'est ça.
Hein, et on pense en fait, qui on pense, c'est en fait son fils.
Oui, Roy McBride.
Roy McBride qui pense qu'il est mort. Et en fait, on va apprendre au cours du film, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, c'est un spoil qui ne gâche pas le film, parce qu'on sait très rapidement, en fait, que Clifford McBride est vivant. Mm-hmm. Hein. Et donc, en fait, voilà, on est là sur cette, comment on pourrait dire, cette surprise donc, pour le personnage central du film, qui est Roy McBride, le fils de Clifford McBride, qui est incarné, Roy est incarné par Brad Pitt.
Brad Pitt, tout à fait.
Donc, alors Alain, c'est en effet un film qui est, comment on pourrait dire, qui cherche à développer un point de vue. On pourrait dire même que c'est un seul point de vue.
Tout à fait, c'est le point de vue de Roy McBride.
C'est le point de vue de Roy McBride, puisque on le voit tout le temps.
Quasiment, ouais.
Quasiment tout le temps. À chaque plan,
il est présent.
Il est présent. Et donc, on pourrait dire que James Gray, en quelque sorte, a essayé de développer la logique du point de vue de Roy McBride jusqu'au bout. Mm-hmm. Hein, en quelque sorte, on pourrait dire jusqu'au bout du système solaire.
Ouais, hein, presque jusqu'au bout du système solaire, ouais.
Alors, ce Brad Pitt, ce, donc, désolé, ce Roy McBride, hein,
en fait, de son état.
Voilà. Pourquoi et en quoi, en fait, la mise en scène de James Gray rend ce Brad Pitt, ce Roy McBride, le personnage, particulièrement fascinant. Moi, je trouve particulièrement fascinant en quoi, en fait, on peut dire.
Mais c'est un personnage qui a l'air, enfin, qui est parfaitement très calme, qui s'énerve quasiment, enfin, qui s'énerve jamais, qui a une grande maîtrise sur lui-même. On le comprend dès la première scène, quand il fait une chute vertigineuse de plusieurs centaines de kilomètres. Et où il a réussi à maîtriser ses gestes pour réussir à stabiliser son vol et ensuite à pouvoir ouvrir son parachute. Il ne panique à aucun moment. Il est toujours, d'ailleurs...
Maître de lui, c'est ce qui lui sauve la vie.
Voilà. Il dit, il ne dépasse jamais 80 battements par minute. Et donc ce personnage va se trouver confronté à l'histoire de son père. Et ça va complètement remettre en question ce qu'il est, quoi, en quelque sorte.
Oui,
ça,
on peut dire que ça va perturber en quelque sorte... cet homme qui a l'air d'être un iceberg, en fait.
Un iceberg et un... Comment je pourrais dire ? Qui est vraiment dans l'hyper-contrôle. Et il va finir par complètement se retrouver à un certain moment en situation de panique, justement. Ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant.
Oui, parce qu'il n'est pas habitué.
Tout à fait.
Donc, on voit ce personnage qui, en fait, se prépare donc, en quelque sorte, pour aller dans l'espace. Mm-hmm. Et toute sa vie vient se jouer sur la question du contrôle, de la maîtrise de soi. Mm-hmm. Et on l'entend quand il dit qu'il faut en effet se concentrer sur l'essentiel.
C'est ça. Hein? Écarter toute idée qui ne soit pas dans la problématique du moment. C'est vraiment c'est un personnage très pragmatique, enfin uniquement pragmatique au départ, et qui pense que il faut vraiment être dans l'instant et se concentrer sur l'instant pour pouvoir répondre aux défis auxquels il a à faire face.
Donc, en effet, il est montré comme ça. Il est montré dans cette situation dans laquelle, en fait, sur Terre, en quelque sorte, il est en fait autosuffisant et que, en fait, il a une compagne. Il n'a pas d'enfant. Mmh. Il a une compagne, mais en fait, cette compagne, il ne lui tient pas trop compagnie.
Oui, et puis apparemment, on comprend dès le début qu'elle l'a quitté.
Oui.
Puisqu'il est en un moment, il veut lui envoyer un message, je ne voulais pas que tu partes, etc. Il renonce à envoyer ce message juste avant de partir. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène-là.
Oui, parce qu'il ne sait pas s'il va revenir et il n'a pas envie, en quelque sorte, de peut-être d'avoir...
Des regrets.
Des regrets par rapport à ça. Hein. Mmh. Donc, en effet, on sent un personnage extrêmement solitaire. Ce qui est intéressant avec James Gray, en fait, c'est qu'il va jouer ce genre du space opéra. Hein. Mm-hmm. Hein, on peut dire peut-être ce genre de la science-fiction. Ça va être l'occasion pour lui, en quelque sorte, d'éprouver un personnage. Ouais. Hein, dans sa solitude la plus extrême.
Oui, cette aventure jusqu'à Neptune, jusqu'à la confrontation avec le père, va exacerber effectivement le sentiment de solitude dans lequel s'enferme le personnage. Ça ne va cesser de monter une espèce en puissance et ce qui va complètement le transformer à son retour, où il y a une espèce de renversement total. Puisque à son retour, on comprend qu'en fait, il va plutôt se tourner vers les autres, alors que jusqu'à présent, il les tenait complètement à l'écart.
Ça fait penser un petit peu, Alain, je ne sais pas si tu te rappelles de ce film, Into the Wild. Hein, le personnage qui va vivre une expérience extrême, si je ne me trompe pas, en Alaska, en tout cas dans le Grand Nord, et qui, dans cette expérience extrême, va, dans cette solitude extrême, va en fait... Au dernier moment, on pourrait dire, dans son journal, exprimer un regret et dire que, en fait, le véritable bonheur, c'est pas le fait d'être seul.
La solitude, ouais.
Hein, c'est pas la solitude,
ouais.
Mais c'est en fait
la relation.
La relation.
Le rapport aux autres.
Le rapport aux autres. Mm. Hein. D'ailleurs, ce que le film Into the Wild montre, c'est avec toutes les rencontres que le personnage central donc, va faire. Donc ici, on est en effet dans une expérience qui est une expérience extrême de solitude. On pourrait penser par ailleurs à aux nouvelles de Jack London, hein, qui, dans le petit recueil de nouvelles qui s'appelle « Construire en feu ». Mm-hmm. Dans « Construire en feu », Jack London, c'est un texte absolument extraordinaire, hein, j'invite tous nos auditeurs à lire « Construire en feu » de Jack London. Dans ce texte, Jack London montre un personnage qui va faire l'expérience de l'extrême et dans sa solitude, en fait, va finalement, au bout du compte, et comme dans Into the Wild, être piégé parce que les conditions sont tellement extrêmes que la moindre erreur est fatale. C'est la même situation, en fait, pour Roy Myride, parce que la moindre erreur pour lui... Dans ce contexte de
vide spatial, là,
de vide spatial,
de l'immensité de l'espace,
c'est la mort assurée. Et il ne peut pas faire d'erreur. Comment on peut penser une existence? C'est entre autres ça la question qui est posée, mais c'est aussi la question que déjà Jack London posait dans Construire un feu, ou qui est posée dans le film Into the Wild. Hein.
Ah oui, je pensais que c'était dans Lastra aussi. Dès le début, il le dit, je ne me permettrai pas de faire d'erreur.
Il ne peut pas faire d'erreur. C'est ça qui est absolument fascinant dans ce film, c'est qu'il doit incarner le contrôle absolu, et il ne peut pas, il n'a pas le choix, en quelque sorte, de pouvoir faire une erreur. Nous, en fait, quand on pense à notre existence, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire. On va dire, ben, nous nous construisons avec nos erreurs. Mmh. Et combien de fois on va donc acquiescer et dire, ben oui, de toute manière, on se trompe, on fait des erreurs, on fait des...
On apprend
de nos erreurs. Et etc., etc. Lui, il ne peut pas. Mmh. D'accord. Et ça, c'est en quelque sorte une ligne de conduite extrêmement... il est dans l'extrême, mais pas seulement dans l'extrême, on pourrait dire, de l'espace. Il est dans l'extrême de l'exigence de sa mission.
Oui, mais c'est aussi justement le contexte spatial qui fait qu'il ne peut pas se tromper.
Tout à fait.
Qu'il n'a pas droit à l'erreur. C'est parce que l'espace est sans pitié. Enfin, il y a le moindre faux pas et effectivement, tu peux te retrouver anéanti par l'espace, et puis tu disparais complètement dans l'immensité, comme à la fin son père qui disparaît complètement dans l'espace, qui se laisse emporter. Donc il y a aucune marge de manœuvre, aucune.
Alors il faut dire que le film commence d'ailleurs par quelque chose qui est terrible, hein, qui est une chute, hein. Mm-hmm. Donc Roy Myride va donc faire une chute et il va, comme tu l'as dit, s'en sortir grâce à son sang-froid.
C'est ça, hein, grâce à son sang-froid, où il a contrôlé ses mouvements, limité ses culbutes, parce qu'il tournoie dans l'espace, ouais, en tombant, etc. Donc il arrive à se stabiliser, et une fois stabilisé, effectivement, il peut ouvrir son parachute, qui va être transpercé par des débris, mais il réussit quand même à contrôler le parachute, même troué, jusqu'au sol, quoi. Il s'est sauvé comme ça, et sans jamais paniquer à aucun moment. Il est toujours dans une espèce de froideur... pire que celle de l'espace, si je puis dire.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que rien que pour cette scène, en quelque sorte, le film mérite.
Ah oui, la scène d'ouverture.
La scène d'ouverture est extraordinaire.
Thank you. know the moon, he knows the stars. And he knows the Milky Way.
C'est là où on peut dire en quelque sorte que James Gray, alors je fais une comparaison, tu vas peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est le but. Je vais le comparer à David Lynch. Il est capable, James Gray, de nous proposer quand même des scènes. Il est capable de nous proposer des séquences, des images que inédites, inouïes, en quelque sorte, comme peut le faire David Lynch dans ses films, que ce soit Lost Highway, Mulholland Drive, etc. Des images qui, en fait, viennent complètement, comment on pourrait dire, perturber nos images mentales, nos représentations, en fait, de ce que peut-être l'espace, ce que peut-être le destin de l'individu, etc.
Ouais. Enfin, la différence entre Lynch et ce film-là de James Gray, c'est que Lynch, on est quand même dans l'onirique ou dans la remise en question du sens, de sa construction, de comment il se forme, alors que James Gray, lui, reste dans le réel. On est complètement dans la physique, la physique réelle du monde, la physique réelle de l'espace, quoi.
Oui,
c'est
donc
complètement différent.
Voilà, on est dans une science-fiction, mais la science-fiction, elle n'est pas dans un imaginaire. Hein. Elle est dans l'anticipation de ce que pourrait être, de ce que pourrait nous permettre donc un progrès technologique.
Mm-hmm.
Hein. Donc, en effet, il y a cette dimension-là dans le film de James Gray. Alors, d'entrée de jeu, en quelque sorte, et c'est ça qui, moi, je trouve assez passionnant, c'est qu'il nous propose, en quelque sorte, de revisiter le genre. Et il nous éprouve d'entrée de jeu par cette scène qui est une scène absolument fulgurante. Il nous amène à éprouver en quelque sorte l'espace. Parce que l'espace, c'est toujours, quand on pense aux films de science-fiction, on est toujours dans une espèce d'abstraction quand même de l'espace. Puisque l'espace se traverse à toute vitesse.
Ouais.
Et qu'en fait, on voit rarement.
Alors que là, c'est vrai, les voyages sont lents en fait. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
Voilà.
Et très, très silencieux. Alors que généralement, dans les films de science-fiction, évidemment, les engins font beaucoup de bruit, les combats font beaucoup de bruit. Enfin, on est envahi par le bruit, alors que là, on est vraiment dans le vide de l'espace et c'est infiniment silencieux.
Alors voilà, moi je pense que vraiment c'est un film... on n'est peut-être pas d'accord, mais je pense que c'est vraiment un film extraordinaire sur ce plan-là, parce qu'il revisite le genre de manière très différente. Comme pouvait le faire, je vais faire encore une comparaison... comme pouvait le faire, par exemple, Clint Eastwood avec...
Unforgiven.
Hein. Dans Unforgiven, on sait que Clint Eastwood revisite tous les clichés du western. Et au lieu d'avoir des cow-boys qui font tournoyer leurs pistolets à très grande vitesse, etc. En fait, d'entrée de jeu...
La lourdeur des armes.
Voilà, d'entrée de jeu, en effet, les hommes qui sont là sont confrontés à la lourdeur des armes, au hasard, à la terre, etc. Il y a vraiment... aux éléments. Ça, c'est ça qui est absolument passionnant dans ce western de Clint Eastwood et qui fait que c'est un chef-d'œuvre. C'est qu'en effet, Clint Eastwood revisite le monde du western en lui donnant une matérialité, une pesanteur, etc., que les autres n'avaient pas, en fait. Mm-hmm. Hein.
Effectivement, dans le film de James Gray, il y a ce côté-là aussi où on voit que c'est pas si facile d'aller de la Terre à Mars et puis de Mars à Neptune, que c'est compliqué, que c'est lourd et que c'est infiniment...
Que c'est long.
Voilà, et que ça renvoie un peu à la phrase de Pascal, tu vois, que le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Quoi. On est dans ce sentiment-là. Vraiment, il y a l'absence totale, on est dans le vide total. Moi, je pense que ce film, alors qu'il ne cesse de parler de Dieu, quand même, ça ponctue le film, hein, parle de son absence, en fait. Une absence totale. Il n'y a vraiment rien. C'est ce que dit le père à la fin, d'ailleurs. Hein. Il n'a rien trouvé. Il n'a absolument rien trouvé.
Oui, mais en même temps, il espère toujours.
Je ne sais pas. Tu crois que le père espère toujours ?
Bon, on va en reparler. En tout cas, je voudrais insister sur ça, sur le fait qu'en effet, ce film-là est un film, je pense, qui va rester parce qu'il revisite, en fait, le genre de la science-fiction et qui lui donne une pesanteur, une durée.
Une matérialité
que les autres films de science-fiction n'ont pas, en fait.
Oui, tout à fait. Ça a l'air d'être un jeu vidéo, les autres, quasiment. Ouais. La plupart du temps.
Alors, si on regarde un petit peu comment la presse présente le film Ad Astra, on nous parle d'une odyssée astrale et oedipienne. Moi, je ne trouve pas du tout que ce soit oedipien.
C'est parce qu'il y a une histoire avec le père. Il y a quand même aussi cette histoire de...
Il ne veut pas le tuer.
Enfin, à un moment, il a un peu la rage quand même. Hein, quand il comprend que son père a peut-être tué l'équipage du Céphée.
Oui.
Il veut le confronter, hein, il le dit, il veut confronter son père.
Il veut savoir.
Il veut savoir, voilà. Mais effectivement, quand il se rend compte, cette rage apparemment est tombée. Et il lui a déjà pardonné en quelque sorte.
Ouais. En fait, il va chercher son père.
Il va chercher son père.
Ouais, au bout du
compte. Il veut qu'il revienne.
Il veut qu'il revienne, chercher à le sauver.
Voilà, il cherche à le sauver, qu'il revienne à la maison. Mais pour son père, sa maison, c'est le vaisseau Céphée qui tourne autour de Neptune. Il ne veut pas revenir.
Oui, donc c'est là la grande différence, c'est que en fait le Clifford McBride, c'est pas Ulysse.
Non. Ah,
c'est pas Ulysse dans l'Odyssée. Et Ulysse, il veut rentrer chez lui.
Lui, il veut pas.
Lui, il veut pas.
Non.
Ah, c'est pas
ça. C'est son fils qui vient le chercher d'ailleurs.
Ouais, oui. Ah, c'est son fils qui vient le chercher et en fait il demande au fils de le laisser.
De le laisser partir.
Ah, oui. En fait aussi il lui dit voilà lâche-moi. Ah, alors, bon, évidemment, ils ont parlé, les critiques du cordon.
Oui, quand ils sont attachés par le cordon.
Voilà, que ça fait penser à cordon ombilical et qu'on serait dans une espèce d'inversion, en fait, puisque le père deviendrait l'enfant qui serait lâché par
le fils.
Par le fils, hein. Mm-hmm. Donc une espèce d'inversion que permettrait le film Ad Astra. Et on voit que le fils rentre. Il rentre.
Il revient sur Terre, lui. Tout à fait. Il revient sur Terre, mais il n'est plus le même, ce qu'on disait.
Il n'est plus le même.
De son désir de s'isoler, d'être dans la solitude, et s'est transformé en ce désir d'aller à la rencontre de ses semblables.
Et en effet, c'est l'ouverture. Enfin, toute la fin du film, tout en restant centré sur le personnage de Roy. Ouais, de Roy, en fait, il modifie en fait ce qu'il pense intérieurement et il dit rester attentif, mais pas seulement à lui-même, aux autres.
Aux autres. Oui.
Parce qu'en quelque sorte, il vient réhabiter la Terre.
Il vient réhabiter le monde,
oui. C'est ça qui est assez étonnant.
C'est une seconde naissance, en
quelque sorte. Hein. C'est qu'il a eu besoin peut-être, à un moment donné, peut-être de tuer le père. Mm-hmm. Alors là, à ce moment-là, on est sur le plan symbolique.
Oui, mais il le tue avec la, avec la demande du père. C'est le père qui lui
demande. C'est le père qui lui demande, en quelque sorte. Lui, il l'aurait pas fait.
Ouais. Mais il le fait quand même.
Il le fait quand même, mais en même temps, voilà, c'est pas. On peut pas vraiment dire que ce soit Oedipia. Parce que c'est pas lui qui. Lui, il désirait le contraire.
C'est pas un meurtre inconscient, non.
C'est pas un meurtre inconscient. Et puis, non plus, il le fait parce que quelque part, il est obligé de le faire.
Oui, oui, que son père ne. C'est tout ce qu'il lui demande. Son père ne veut vraiment pas revenir et il veut finir au milieu des étoiles, quoi.
Donc, en effet, en quelque sorte, l'espace va absorber le paternel. Et, en quelque sorte, dans son retour, Roy McBride va se réouvrir à l'espace du monde
de
la Terre.
Ouais,
et ça, c'est assez étonnant parce qu'en fait, le film... on voit bien évidemment que la question de respirer l'oxygène, etc., est fondamentale et cruciale pour les gens qui vivent dans l'espace. Mais tout d'un coup, on a l'impression qu'il est en train d'apprendre à respirer à nouveau.
Oui, en fait, il a fallu qu'il aille vraiment très loin aux confins de l'espace pour pouvoir revenir ici et maintenant.
Oui, et pouvoir en quelque sorte être
présent. Dans une présence.
Être vivant, présent et pouvoir respirer. En quelque sorte, on a l'impression qu'à travers ce film Ad Astra, c'est pas seulement le spectateur qui retient son souffle. Mais c'est Roy McBride qui retient son souffle pour rester concentré et en quelque sorte ne pas perdre de vue la possibilité pour lui, peut-être, d'exister par-delà le père. Puisque le père est trop présent, c'est le héros dont tout le monde parle. Et lui, par rapport à ce héros dont tout le monde parle, il n'arrive pas à exister. Il faudra que lui-même sauve le monde, parce que quelque part, en détruisant le vaisseau il va pouvoir, en quelque sorte, rétablir l'ordre du cosmos et pouvoir revenir sur Terre en véritable héros.
Oui. Hein? Mais il y a un retournement complet du personnage, effectivement. Oui. Comme il revient, on peut dire que finalement, il a vraiment coupé avec son père, puisque son père ne cessait de le hanter.
Ouais.
On voit qu'il est hanté par cette figure paternelle depuis le début et jusqu'à la confrontation finale. Et avec cette confrontation, effectivement, il coupe complètement avec le père. Il s'en débarrasse, en fait. C'est un poids qui ne lui pèse plus.
C'est le cas de le dire, puisqu'il part
dans le vide.
Il part dans le vide. Mmh. Et en quelque sorte, il s'anéantit. Eh bien, sur ces belles paroles, Alain, nous allons nous quitter. Bonsoir à vous tous.
Bonsoir tout le monde.
Et à bientôt.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.